Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Stéphane Touvenin. Aujourd'hui, nous recevons Florence Burga et Damien Baldin pour parler des animaux. Florence Burga, bonjour.
Bonjour.
Damien Baldin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour à tous. Nous sommes très très heureux de vous accueillir, Florence Burga et Damien Baldin, pour nous parler des animaux. Car il faut vous dire, ça fait très longtemps que Frédéric réclame une émission sur les animaux. Et ça fait longtemps que nous pensons, nous avons tellement parlé de l'humain, qu'il serait temps quand même que nous parlions aussi de nos frères, les animaux. Et voilà, Florence Burga et Damien Baldin, vous avez travaillé sur cette question des animaux et c'est la raison pour laquelle nous vous avons conjointement invité pour faire cette émission. Florence Burga, vous êtes directeur de recherche en philosophie à l'Institut national de la recherche agronomique et détachée aux archives Husserl, où vous poursuivez votre travail sur les approches phénoménologiques de l'existence animale. Vous avez en effet déjà publié un ouvrage qui s'intitule « Une autre existence, la condition animale » aux éditions Albin Michel, ouvrage très fouillé sur les questions que soulève le statut des animaux et le traitement que l'homme leur réserve. Vous avez aussi publié déjà deux articles sur l'extension du devoir de non-violence étendu aux animaux dans la pensée de Gandhi. Et puis, vous avez aussi publié un ouvrage aux éditions Maison des sciences de l'homme qui s'intitule « Ahimsa, violence et non-violence envers les animaux en Inde ». Alors, vous dites que cet ouvrage est un peu en marge de vos recherches, qu'il est le fruit d'un travail de terrain plus que d'une approche métaphysique. Mais en réalité, en vous lisant, on se rend compte que dans cet ouvrage, bien sûr, vous faites retour sur une mission en Inde que vous aviez effectuée au mois de février 1998, mais que finalement, le sujet est quand même un sujet qui vous habite depuis toujours. De fait, nous allons voir qu'il y a une continuité de réflexion entre ces différents travaux que vous avez commis. Ils posent la question de l'identité humaine telle qu'elle se révèle, en fait, dans notre appréhension du monde animal. Damien Baldin, quant à vous, vous êtes chargé d'enseignement à l'École des hautes études en sciences sociales où vous préparez une thèse et vous êtes par ailleurs aussi conseiller à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. On va voir que ce n'est pas sans rapport avec le livre que vous avez publié sur les animaux. Vous vous posez vous aussi, en fait, les mêmes questions que Florence Burga, mais sous un autre angle peut-être. En particulier donc dans cet ouvrage « Histoire des animaux domestiques, 19e-20e siècle » aux éditions du Seuil. Partant d'une période et d'une problématique historiquement circonscrite, d'une analyse qui se base plus sur les sciences sociales, l'anthropologie, l'histoire, vous dégagez néanmoins des problèmes d'ordre philosophique sur ce que les animaux nous disent de nous-mêmes en tant qu'humains, ou soi-disant humains, et de notre rapport aussi à la violence et à l'altérité.
Alors nous avons parlé la semaine dernière du post-humanisme et cette émission a été l'occasion de poser la question finalement de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'humanité, et on pourrait la prolonger avec cette émission à travers la définition de l'animal et de sa différence avec l'être humain. Donc j'ai envie de commencer avec vous, la philosophe Florence Burga, parce que c'est une question qui traverse un peu toute votre œuvre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la question de la différence entre l'homme et l'animal se pose de manière totalement différente qu'elle s'est posée par exemple pour les Grecs ou dans l'Antiquité où les choses semblaient bien établies?
C'est vrai que cette question n'a pas toujours été abordée de la même façon durant l'Antiquité, où les choses étaient beaucoup moins prises dans une opposition rigide qu'elles ne le seront au XVIIe siècle, notamment.
Le cartésianisme.
Voilà, comme on le sait. Mais pour parler de la, peut-être de la période actuelle, il semble qu'un certain nombre de sciences, de travaux, d'observations est remise en question, pour ne pas dire battue en brèche, un certain nombre de critères qui valaient pour construire une différence entre l'homme et l'animal. L'un des soucis évidents dans l'histoire de la philosophie, c'est au fond de construire une différence métaphysique très profonde entre l'homme et l'animal, de sorte que les différents critères qui s'effondrent ne parviennent pas toujours à mettre à mal cette différence métaphysique qui est d'une certaine manière logée dans un point un petit peu introuvable. Quand la philosophie parle de l'éminente dignité métaphysique de l'homme, on ne sait pas très bien dans quoi elle tient, c'est une sorte de postulation. Il me semble qu'aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs, de collègues, essaient de montrer que cette obsession de la quête d'une différence est peut-être un peu ridicule pour tout dire, et que cette façon que l'homme a de rechercher absolument à s'assurer d'une distinction est assez curieuse, parce qu'au fond c'est comme s'il doutait de sa propre identité et qu'il avait toujours besoin de construire un envers qui est toujours au fond dégradé, plus ou moins abject, plus ou moins privé des qualités qu'il s'attribuait à lui-même. Et c'est finalement ça qui me semble plus intéressant que de chercher le fameux lieu de cette différence.
Au cœur de ce débat aujourd'hui, il y a effectivement tout le débat sur le spécisme. Est-ce que effectivement l'espèce humaine est une espèce radicalement différente des autres espèces animales, ou est-ce que finalement on est dans une continuité avec un peu plus d'intelligence, un peu plus de compassion? Qu'est-ce que vous pensez de ce débat?
Alors, je pense que ce débat a à la fois évolué et pas du tout évolué, parce que bien sûr, vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui sont naturellement des darwiniens, donc qui sont tout à fait d'accord avec l'idée que l'espèce humaine est une espèce animale, que nous sommes bien sûr pris dans une évolution, et ils ne remettent pas cette vérité.
Oui, il n'y a pas de discontinuité entre l'homme et les autres animaux.
Mais en même temps, cela n'empêche pas, comme je le disais, de repartir en quête d'une forme de différence qui maintient une coupure radicale. Donc on peut très bien penser l'homme dans la continuité de la série animale et dire qu'il s'en détache cependant et qu'il s'en détache absolument.
Quelle est votre position, vous ?
Ma position, c'est que tant que l'on essaie de comprendre les animaux en les référant à l'humain, on arrive toujours à une définition au sein de laquelle ils sont privés de quelque chose, du langage, de la raison, du monde, d'une histoire, etc. Ou bien on arrive à des conclusions selon lesquelles ils possèdent de manière moins éminente le langage, la raison, la conscience, etc. Et dans le travail que j'ai entrepris il y a déjà plusieurs années sur les approches phénoménologiques, ce qui m'a semblé tout à fait fécond, c'est d'essayer d'appréhender la vie animale dans sa singularité, c'est-à-dire de s'émanciper de la référence à l'humain pour penser l'animal et se dire, au fond, est-ce qu'on n'a pas affaire à une autre organisation ? Et je prendrai un exemple pour rendre cette idée plus claire. Il me semble qu'aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de dire qu'un nourrisson, c'est un adulte moins quelque chose. Je pense que les pédopsychiatres ont montré que le nourrisson a une organisation du monde, une façon de communiquer qui est structurée différemment de l'adulte. Certes, il va grandir et changer de structure. Je pense que les ethnologues ont fait un travail aussi comparable en montrant que les peuples premiers, comme on les appelle, ne sont pas des peuples qui seraient comparables aux peuples occidentalisés, industrialisés, moins quelque chose, mais que ce sont des organisations de pensée différentes, comme bien sûr Lévi-Strauss l'a mise en évidence, en particulier dans la pensée sauvage. Donc il me semble que pour l'animal, il faut essayer de faire cet effort que fait une partie de l'éthologie d'ailleurs, c'est-à-dire de penser le monde propre de l'animal et non pas de dire c'est un frère inférieur. Enfin, ce serait ma position.
Lélie Anvar ?
Oui, je ne pensais pas que ça viendrait si vite, mais en fait, comme vous avez parlé de la comparaison avec le nouveau-né, Peut-être que, de manière inhabituelle, je vais vous donner le texte que je vous ai apporté tout de suite, parce que c'est vraiment, ça pose l'enjeu, enfin le débat là où vous le situez. Et ce texte est un texte très célèbre de Jeremy Bentham, je sais que l'on cite très souvent sur les débats animaux, qui pose des problèmes parce que Jeremy Bentham est donc un penseur de la fin du 18e, 19e siècle anglais. Il est considéré comme le père de l'utilitarisme. Et c'est vrai que très souvent, on accuse l'utilitarisme de considérer les animaux comme juste des objets dont on peut faire ce que l'on veut. On va voir dans ce texte que ce n'est pas tout à fait le cas, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est exactement qu'il tient le discours que vous venez de tenir. C'est-à-dire, c'est une question de il y a une sorte de continuité avec des organisations différentes dans le vivant. Et voici donc ce qu'il dit dans son introduction au principe de la morale et de la législation. C'est assez important de rappeler bien que c'est extrait de cette œuvre-là. Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale acquérera ses droits qui n'auraient jamais pu être refusés à ses membres autrement que par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans secours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau, ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Et quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable? Est-ce la faculté de raisonner ou peut-être celle de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu'un enfant d'un jour ou d'une semaine ou même d'un mois. Mais quand bien même il ne l'était pas, qu'est-ce que cela changerait? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?»
Florence Burguet.
Oui, je voudrais juste dire un mot pour compléter ce qu'on vient de dire. Dans ce débat sur la différence entre l'homme et l'animal, quelles que soient les différences qu'on peut énumérer, qu'on peut découvrir, etc., il y a une autre question qui se pose évidemment d'un point de vue moral, c'est quelles sont les différences moralement pertinentes. Parce qu'on peut trouver des tas de différences, bien sûr, entre l'homme et les animaux, mais aussi entre les espèces animales elles-mêmes. La question ensuite, c'est est-ce que ces différences sont de nature à considérer que les animaux sont de ce fait exclus de la sphère de la considération morale. Donc le texte que vous avez cité, bien sûr, pose très exactement la question de la différence moralement pertinente.
Alors Damien Baldin, on va prolonger cette conversation avec vous et ça tombe bien parce que votre ouvrage s'intéresse donc au rapport entre l'homme et l'animal à partir essentiellement du 19e siècle et c'est justement ce que vient de nous dire Lélie. Il semble que ce soit dans cette période-là, charnière 18e, 19e, qu'un certain nombre de penseurs s'intéressent à la condition animale, réfléchissent effectivement l'action des droits que pourraient avoir les animaux et en tout cas des lois qui permettraient d'éviter de trop faire souffrir les animaux. Il semble qu'il y a un débat intellectuel qu'on connaît très peu qui a lieu en Europe et qui est aussi ancien que ça.
Oui, le 19e siècle est parcouru par une intense réflexion, un intense militantisme également pour faire émerger une législation qui protège les animaux domestiques de certaines pratiques humaine. Cela commence dès le tout début du 19e siècle en Angleterre et en France, la première loi symbolique et qui va inaugurer la législation française en termes de protection des animaux, c'est la fameuse loi Gramont de 1850 qui est votée lors de la Seconde République et qui fait des mauvais traitements envers les animaux domestiques en public une infraction pénale, une contravention pour laquelle eh bien, le condamné risque une peine d'amende, voire une peine de prison. C'est donc le début, c'est la première loi, la première loi pénale, et puis les sociétés de protection des animaux, notamment la SPA, qui est créée en 1845, puis à partir de la seconde moitié du 19e siècle, lorsque justement d'autres sociétés de protection naissent, eh bien, il y a un militantisme auprès du gouvernement, des autorités politiques, pour améliorer cette loi que les protecteurs des animaux jugent très largement insuffisant, notamment en excluant la corrida de cette loi Gramont. Et c'est en fait très très lentement le pouvoir républicain est extrêmement réfractaire à une amélioration de cette loi et il faut attendre les années 60 pour qu'il y ait une amélioration de la protection juridique des animaux, la loi qui crée un acte de cruauté, qui en fait un délit, délit pour lequel, il y a quelques mois, autour du buzz de l'histoire du petit chat à Marseille, la personne a été condamnée à un an de prison.
En jouant avec un chat, en faisant du lancer de chat.
Il est tombé sous le coup de la loi, qui fait d'un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, un délit passible de 2 ans de prison. Cette loi de 1963, je crois, a été améliorée en 1999, puisque la peine maximale de prison est alors passée de 1 à 2 ans ferme. Alors, pourquoi au XIXe siècle autant d'attention, et notamment d'attention philosophique et juridique à la question des animaux? Plusieurs phénomènes peuvent l'expliquer. Il y a d'abord des phénomènes sociaux, et l'émergence de l'animal de compagnie qui devient un phénomène de masse avec une société
avec
l'urbanisation, effectivement, où vous avez un rapport aux animaux domestiques qui change jusqu'au XVIIIe siècle et encore même très longuement au XIXe siècle. La société française est une société rurale dans laquelle les animaux
sont utiles,
de la vie, mais la domestication est une domestication dite de l'élevage, alors que l'urbanisation, les élites urbaines, peu à peu perdent ce lien avec l'animal d'élevage, avec cette manière de domestiquer les animaux qui existe aussi, et peu à peu le rapport beaucoup plus intime avec les animaux de compagnie vont accroître une certaine sensibilité à leur sort, et ce sont ces mêmes élites urbaines que l'on va retrouver pour militer pour l'amélioration des animaux de compagnie. Il y a un exemple extrêmement marquant qui montre une mutation des sensibilités sociales. C'est l'exemple du chien qui, dans la société rurale, jusqu'à la fin du XIXe siècle, pouvait être utilisé pour tirer des petites voitures. Une pratique tout à fait normale dans les campagnes et dans les villes françaises. À partir de la fin du XIXe siècle, on trouve de plus en plus d'arrêtés préfectoraux qui demandent à ce que l'on interdise aux chiens de tirer des voitures. Et à partir de la fin du XIXe siècle, avec cette série d'arrêtés préfectoraux, les chiens qui tirent des voitures vont disparaître de l'espace urbain.
Oui, mais alors, justement, ça pose une question. De temps en temps, on voit ça dans des romans ou dans des films d'époque, comme on dit. Ça pose la question du statut, justement, de l'animal par rapport à l'humain. Parce que, alors, avant, on disait mener une vie de chien, ça voulait dire précisément avoir une vie terrible. Mais après, avec cette évolution, on voit que, en particulier en Angleterre, par exemple, les chiens sont infiniment mieux traités que les domestiques, par exemple. Ça renverse presque le rapport, en fait, entre lequel est plus respectable. Et donc, la vision de qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est... Voilà, et qu'est-ce que le droit, finalement.
Alors, qu'est-ce qui est humain en histoire, pour moi, les animaux n'existent pas. Pour eux, ils n'existent pas, parce que ce que je peux en dire dans l'histoire, je ne peux le dire qu'à travers des traces et des sources humaines. Et évidemment que derrière chaque animal, il y a des individus, il y a des hommes, il y a une société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'inscrire cette histoire des animaux dans une histoire sociale et culturelle, car en historien, parce que j'ai une méthodologie d'étude des sources, je ne peux donner toujours que ce que les hommes font des animaux, et pas du tout ce que sont les animaux. Et c'est la raison pour laquelle le débat que nous avons commencé ici, en cherchant une distinction animal, humain, à chercher ce qui pourrait caractériser justement les animaux, est pour moi presque une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas les documents, les éléments qui me permettent d'y répondre. Aujourd'hui, nous avons l'éthologie. L'éthologie qui met en place un système expérimental pour pouvoir étudier les animaux en société, les cultures animales. En tant qu'historien, je ne peux pas moi-même me transformer en éthologue qui remonterait le temps. Je suis obligé d'utiliser pour cela des documents de vétérinaire, par exemple. Mais même un document de vétérinaire ou même un témoignage est toujours le résultat d'un contexte social, d'un contexte psychologique, d'un contexte économique qui ne me permettent pas d'appréhender une réalité animale.
Encore une question sur l'histoire, et puis on va revenir avec Florence sur les aspects plus philosophiques. Est-ce qu'on a tendance un peu aujourd'hui à dire, c'est un discours qu'on entend assez souvent, tous ceux qui s'intéressent à la défense des animaux, etc., c'est presque comme s'ils méprisaient les humains, ou qu'ils ne s'intéressent pas, si vous voulez, au sort des humains, ils préfèrent les animaux aux humains. C'est assez mal vu, on dirait, dans une certaine forme d'intelligentsia française. J'ai l'impression qu'au XIXe siècle, les gens qui ont milité pour la défense des animaux, notamment qu'on les protège, qu'on condamne ceux qui commettent des actes de torture sur des animaux, c'était en même temps des gens qui s'intéressaient aussi, me semble-t-il, à l'humain, qui ont milité pour le syndicalisme, pour la question ouvrière, notamment en Angleterre. Est-ce qu'il y a finalement, il n'y a pas tant d'opposition que ça dans les deux causes ?
La question politique de la protection des animaux est extrêmement intéressante, parce qu'il y a, à mon avis, autant une filiation conservatrice qu'une filiation progressiste. Je reprends l'exemple de la loi Gramont. Par qui est-elle votée à l'Assemblée législative de la Deuxième République ? Elle est votée par la droite conservatrice, le général de Gramont, qui est un bonapartiste. Nous sommes Louis-Napoléon Bonaparte est président de la République. Et elle est votée par les Républicains, notamment à l'appel de Victor Schœlcher. Pourquoi ces deux filiations ? Vous avez d'un côté cette droite conservatrice qui cherche à protéger les animaux parce qu'elle estime qu'ils sont victimes de violences populaires et que protéger ces animaux, c'est aussi d'une certaine manière mieux dresser les violences populaires, c'est mieux dresser le peuple à ce qu'il se comporte extrêmement bien avec les animaux. Il y a donc ici une vision très conservatrice de la protection des animaux. Et puis, de l'autre côté, vous avez une gauche républicaine qui fait des animaux eh bien, une minorité qui, comme les enfants, qui, comme les femmes, qui, comme le prolétariat, n'est pas considérée par les autorités politiques. Et donc, c'est par cette sorte de solidarité, et notamment avec Jules Michelet qui parle de nos frères inférieurs, qui explique que cette gauche républicaine est également très engagée dans la protection des animaux. Et d'ailleurs, ça va se voir très clairement avec la Troisième République, qui va littéralement faire la protection des animaux un pilier de la morale laïque républicaine. La loi Gramont sera affichée dans les écoles. Nous allons encourager les constitutions de sociétés scolaires de protection. Et vous avez toujours cette double filiation. Et même encore aujourd'hui, il faut toujours s'interroger sur l'arrière-plan idéologique et social qui se trouve derrière une volonté d'améliorer la protection juridique des animaux. Car en essayant d'interdire certaines pratiques, c'est aussi interdire certaines pratiques sociales, et qu'il y a aussi une manière dans l'amélioration du statut de l'animal, c'est aussi quel type de pratique économique, quel type de pratique culturelle veut-on interdire aujourd'hui ?
Au milieu d'une banlieue, à deux lieues de chez elle, une mouche à feu perdue au-dessus de la rue, bas de l'aile, minuscule, ridicule, sans pécule, on la bouscule, j'ai faim, dit-elle. Les mendiants ici sont interdits, lui crie de son balcon une mouche de maison. Je suis à bout, j'ai pas un sou, j'ai de la boue partout. Va-t'en chez vous, le moral bas et l'estomac encore plus bas. S'en va la mouche à feu. 5 jours se passent et volent de face un vent de glace et de grimace. Chasse loin dans l'espace la mouche de maison qui atterrit de nuit sur des sorties. Au secours, je suis perdu, je ne vois plus, j'entends des bruits. Branches qui craquent, mulots qui grattent, hibou qui sacre, tonnerre qui claque. Elle a peur, elle va mourir. Enfin, au bord du chemin, s'en vient le fanal au poing. La mouche à feu, c'est vous, mouche de maison. Quelle triste position. Je suis perdu et j'éternue. Oui, j'ai compris. Je vais vous ramener chez vous. Et la mouche de maison, piteuse, miteuse, heureuse,
suit la bouche à feu qui tient allumé son petit fanal et qui rend le bien pour le mal.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie ce matin de Florence Burga et Damien Baldin. Nous parlons des animaux. Je rappelle votre ouvrage, Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques, 19e, 20e siècle au seuil. Et puis Florence Burga, vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment Une autre existence, la condition animale. Un ouvrage de réflexion philosophique très intéressant sur cette question-là, donc chez Albin Michel, Bibliothèque des idées, et puis très récemment, Ahimsa, violence et non-violence envers les animaux en Inde, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Alors je voudrais qu'on reparte avec vous, Florence Burga. Damien Baldin vient de nous parler de toutes ces lois qui ont émergé dès le milieu du 19e siècle pour condamner les actes de cruauté envers les animaux. Et pourtant, il y a quand même une chose assez étonnante, c'est que dans le droit civil français, l'animal est toujours considéré comme une chose, comme un objet, comme un meuble. Donc il y a deux catégories, effectivement les humains sujets de droit et puis les animaux qui sont des meubles. Alors est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce droit pénal qui condamne des actes de cruauté et puis qui continue à travers le droit civil à considérer que les animaux sont des objets ?
Oui, comme Damien Baldin l'a expliqué, il y a effectivement un droit pénal qui évolue et qui, dans le nouveau code pénal de 1994, reconnaît explicitement que les animaux ont des intérêts en propre, et toutes les mentions du type « celui qui aura sans nécessité », etc., ont disparu. Donc il y a vraiment une avancée dans les textes. Le fait aussi que le législateur a créé un chapitre des autres crimes et délits, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre « crimes et délits contre l'État », « crimes et délits contre les personnes », crimes et délits contre les biens. Et puis, il a ouvert un nouveau chapitre pour ne pas ranger les délits contre les animaux dans le chapitre crimes et délits contre les biens. Donc, on peut dire que le code pénal a extrait, de fait, les animaux de la catégorie de biens meubles. Et donc, en effet, il y a une sorte d'incohérence de fond, puisque le code civil les maintient très, très fermement dans cette catégorie des choses appropriables.
Ce serait bien que vous nous expliquiez en quoi cette modification du code civil peut avoir une importance, parce qu'il y a certains philosophes qui le contestent, qui disent que ça n'a aucun intérêt, il n'y a que le code pénal qui compte.
Alors là, je vais me faire l'écho des réflexions de mon collègue juriste Jean-Pierre Marguénaud, qui dit ceci, et j'ai été tout à fait convaincue par ses arguments. Bien entendu, si demain le code civil crée une catégorie propre aux animaux, assortie d'une définition qui reconnaît ces critères, qui sont du reste présents dans un certain nombre de textes, on peut imaginer que la condition animale n'en sera pas immédiatement bouleversée, bien entendu. Mais il pense ce faisant que, premièrement, les textes protecteurs, enfin, les textes qui limitent, disons, un certain nombre de souffrances et d'actes douloureux au cours des utilisations dont les animaux font l'objet et qui conduisent toutes à leur mort tout de même, ces textes ne seront jamais correctement appliqués tant que, pour le juge, les animaux seront dans le code civil à l'intérieur de cette catégorie générale des biens. Donc, cela permettrait d'une certaine manière de déverrouiller les choses et de donner aux textes qui existent déjà un statut différent de celui qu'il a tant que les animaux seront du côté des choses appropriables. Et deuxième élément, cela permettrait de parler, je me fais toujours l'écho de Jean-Pierre Marguénaud, d'égal à égal, au fond, avec les tenants de l'exploitation animale, hein, pour le dire rapidement, toutes les professions qui vivent, disons, de l'exploitation animale, et puis le camp de ceux qui souhaitent que leurs conditions évoluent. Parce qu'effectivement, là, il y a une sorte de disproportion qui fait que la conversation, le débat ne peut pas véritablement évoluer. Donc ça serait une manière de déverrouiller le débat.
Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe entre, d'un côté, cette société où on voit d'ailleurs, il y a eu un sondage qui a été fait très récemment, qui montrait que je crois que plus de 90% des Français étaient favorables à cette modification du code civil et sensibles à la souffrance animale. Donc d'un côté, hypersensibilité d'une grande partie du public à la souffrance animale, et puis d'un autre côté, une violence appliquée aux animaux à l'échelle industrielle, où là, on mange de la viande qui est très souvent issue de très grandes souffrances infligées aux animaux à travers l'élevage intensif, qui n'a plus rien à voir avec la manière dont les fermes étaient organisées traditionnellement, où les animaux vivaient au milieu des gens. On ne les considérait peut-être pas avec beaucoup d'affection, mais je pense que la manière dont les cochons et les vaches vivaient au XVIIIe siècle était quand même plus enviable que les cochons et les vaches aujourd'hui.
Alors, attention, tout l'élevage aujourd'hui en France n'est pas l'élevage du diable.
Et n'est 96% quand
n'est
même.
Pas,
et n'est est pas, intensif.
Oui. Et n'est pas, ne relève pas de pratiques violentes et qui seraient susceptibles d'être assimilées à des actes de cruauté. Il y a, je crois, dans ce que vous dites, il y a comme une sorte de compartimentation en fait, de la société. C'est que d'un côté, il y a justement cette volonté de voir cesser des pratiques de violence faites aux animaux, mais avec comme référentiel l'animal de compagnie, puisque ce sont les seuls animaux de compagnie qu'aujourd'hui les Français connaissent. Et d'un côté, une invisibilité pour eux, et pour nous tous d'ailleurs, des pratiques qui sont liées à l'élevage et notamment à l'abattage. C'est parce que justement, depuis le début du 19e siècle, l'élevage, l'abattage a été mis de plus en plus à distance, a été enfermé dans des abattoirs, a été éloigné, que le lien social entre cette pratique-là et nos sociétés aujourd'hui s'est terriblement distendu. Et que la société ne sait pas, ne voit plus ce qu'est l'élevage et ce qu'est aujourd'hui les pratiques d'abattage. Et je pense que cette compartimentation-là qui explique que d'un côté vous avez une majorité de personnes qui seraient prêtes à reconnaître plus de droits aux animaux, et en même temps, cette même société qui continue à consommer allègrement de la viande, qui pourtant est issue, parfois, souvent, de pratiques qui seraient contestables, ou qui sont en tout cas contestées par les protecteurs des animaux. Mais moi, j'ai aussi presque une question, c'est que nous avons ici questionner sur cette différenciation, au contraire sur cette continuité entre les hommes et les animaux. Mais dès lors qu'il s'agirait de donner plus de place dans le code civil aux animaux, comment allons-nous, pour le coup, non pas définir la différence homme-animaux, mais comment allons-nous définir les animaux?
Oui, quelle différence entre les animaux? Lesquels on peut manger, lesquels on peut
pas tuer?
Est-ce
que le code civil va hiérarchiser les animaux? Va-t-il établir des différences entre les animaux? Va-t-il donc reprendre des arguments spécistes? Et puis, surtout, si l'on souhaite voir des nouveaux droits pour les animaux, est-ce pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a des pratiques que nous souhaitons voir disparaître? Mais dans ces cas-là, ces pratiques que nous souhaitons voir disparaître, elles peuvent passer aussi par d'autres réglementations que par un meilleur statut des animaux. Et ça, c'est une question à laquelle j'avoue souvent ne pas pouvoir entendre la réponse.
Florence Burga, pardon.
Pardon. Oui, je voulais juste dire, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que en vous lisant l'un et l'autre, je me suis dit, c'est vrai que vous parlez essentiellement des animaux dans lesquels nous pouvons nous projeter, c'est-à-dire auxquels nous prêtons des émotions, des souffrances qui ressemblent aux nôtres. Alors, il s'agit évidemment des animaux domestiques ou des chiens, bon, chez lesquels on peut percevoir une forme d'affectivité qui ressemble à la nôtre. Mais après tout, effectivement, si on dit droit des animaux, est-ce que ça comprend les mouches et les moustiques, etc.? Est-ce que les enfants qui arrachent quelquefois, il y a des enfants cruels comme ça qui adorent leurs chiens, mais qui arrachent quand même les ailes des mouches, est-ce que ceux-là devront être punis par la loi, parce que la mouche aussi, après tout, c'est un être vivant? C'est-à-dire, est-ce que tout ça, ce n'est pas le fruit de nos propres projections? Et je voudrais aussi revenir à ce qui se passait il y a très très longtemps. Dans le zoroastrisme, qui est la religion ancienne de l'Iran, justement, les insectes ont exactement le même statut que tous les êtres vivants. Il y a une devise zoroastrienne qui est très intéressante, qui est « il faut faire attention où on marche, parce qu'il ne faut pas écraser par mégarde une fourmi qui porte sa graine, car la vie est douce, et rien n'est aussi doux que la vie. » Donc là, c'est très, très étrange. C'est-à-dire que Zoroastre, il y a 5000 ans de cela, disait déjà, ah ben non, la fourmi, elle vit, donc il faut qu'on respecte cela. Et ça part du principe, non plus de l'image qu'on sait de l'animal, mais de l'idée que toute vie doit être respectée. Et là, ça nous met dans des problèmes sans fin.
Florence Burgat, sur cette question.
Je pense qu'il y a le plan des principes philosophiques ou éthiques hein, que vous venez de dénoncer. Et puis, il y a le plan de la vie pratique. On sait bien, d'ailleurs, par exemple, dans le jaïnisme, le clergé, on va dire, prend des précautions particulières, balaie devant ses pas, tandis que les jaïnes de la vie ordinaire ne prennent pas autant de précautions. Ils observent, certes, les grands principes. Bon. Si nous parlons de l'époque actuelle, où le traitement des animaux n'a plus rien à voir avec celui qui existait à l'époque de Zoroastre, je pense que nous ne pouvons pas nous poser les mêmes questions et que nous ne les posons pas dans les mêmes termes. Et que là où notre préoccupation va en grande partie du côté des mammifères, des oiseaux et des poissons, n'oublions pas la pêche, puisque nous pensons à l'élevage, à la chasse, à l'expérimentation et donc à la pêche, comme je viens de le dire, convoquer sans cesse la question du statut du moustique ne me semble pas tout à fait bien à sa place. Je crois que si certains veulent faire évoluer la législation, c'est en raison d'un certain nombre de pratiques. Et ce n'est pas tellement pour savoir quelle est la définition la plus appropriée que nous allons donner dans le droit. Les définitions appropriées, ce n'est pas aux législateurs de les faire. On les trouve sous la plume des scientifiques, des éthologues, etc. Et du reste, le législateur a déjà fait apparaître un certain nombre de critères pour qualifier les animaux. Et la réglementation européenne de septembre 2010 est encore beaucoup plus précise. Et d'une certaine manière, on peut considérer que la définition est donnée dans cette directive.
Donc, mais je voudrais quand même revenir sur la distinction entre les animaux. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est tout à fait légitime d'établir une distinction par rapport aux travaux de l'éthologie, notamment, qui nous montrent que, ben voilà, il y a des animaux qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus proches d'une conscience de leur propre sort, de leur propre souffrance que d'autres. Et je ne mettrai pas dans le même statut les dauphins et les insectes. Et là-dessus, quand on massacre des dauphins, comme ça a lieu actuellement dans les îles Féroé ou au Japon, ces êtres intelligents qui aiment l'homme, qui sont sensibles, et qu'on les massacre par pur sport, par pur jeu, ça m'émeut infiniment plus que le massacre des insectes.
Bien entendu, je suis d'accord avec vous, il y a des critères comme ça. Ce que je veux dire, c'est que précisément, les raisons pour lesquelles nous souhaitons faire évoluer la législation, c'est que ce sont notamment ces animaux qui sont les plus affectés par nos pratiques. Alors, on pourra me répondre que l'épandage d'insecticides affecte aussi les insectes. Mais c'est vrai que la question de l'insecte est un petit peu différente aussi, parce que souvent, ce sont des animaux qui sont des parasites ou qui attaquent l'homme ou qui attaquent les espèces animales. Et donc, il y a un droit de chacun, bien sûr, à se protéger contre les agressions. Tandis que le cas que vous évoquez, ou les animaux d'élevage, ou les animaux sauvages, nous ne sommes pas dans la situation d'être agressés par eux. Donc, en effet, il y aurait toutes ces...
Ces critères...
Bien sûr, mais je crois qu'ils sont déjà plus ou moins présents dans les textes.
De la notion, bien sûr, de nuisible et de non nuisible.
Bien sûr.
Et la grande difficulté, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'une cruauté inutile ?
Bien entendu.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bien entendu.
Parce que quelle est la limite de l'utilité ? On peut vivre sans manger de viande, après tout.
Je reprends le cas des dauphins. Dans les îles Féroé, là, on est au mois de juin, actuellement, vous avez des milliers de dauphins qui viennent proches des îles, frayés, et ils sont véritablement massacrés. Mmh. C'est une forme de sport national. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a deux choses qui sont importantes aux îles Féroé, c'est le football et le massacre des dauphins. Et on n'arrive pas à faire évoluer ça, parce qu'effectivement, le droit local laisse cette tradition, on va dire, perdurer, alors qu'il n'y a pas... Ils ne mangent pas les dauphins, il n'y a aucune utilité, les dauphins ne gênent personne. Donc on est devant une tradition ancestrale qui est de l'ordre presque des rituels religieux sacrificiels. C'est-à-dire que c'est une sorte de voilà, il y a un sacrifice du dauphin qui est inscrit dans la mentalité ancestrale comme quelque chose qui soude la communauté. Et là, moi, ça me pose aussi la question du sacrifice animal dans les religions, dont il n'y a aucune utilité sur le plan pratique, il y a une utilité symbolique. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces questions-là.
Bah, la même chose que vous.
Mais dites-moi,
Je pense. Je pense qu'évidemment, tous ces arguments ritualistes, traditionnalistes, sont des habillages de pratiques. Et oui, je suis bien entendu opposée. Je pense même que ces discours, si vous voulez, qui sous-tendent ces pratiques traditionnelles ou sacrificielles, sont vraiment des constructions creuses. Et que si on est dans le symbolique, eh bien, changeons de symbole. Voilà.
Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'un comme l'autre, vous faites des livres sur la question animale et vraiment au cœur de votre sujet, il y a cette question de la violence. Comme si, quand même, ça nous interpelle en tant qu'humains sur notre propre rapport à la violence. Il y a quand même quelque chose qui se joue de très, très important. C'est comme par hasard, vous y revenez et l'un et l'autre. Alors, dans votre livre sur la violence et non-violence envers les animaux en Inde, vous montrez d'ailleurs les paradoxes et nos fausses idées sur le fait qu'en Inde, on respecte les animaux. Mais qu'est-ce que ça nous dit de notre propre rapport à la violence? Où on en est aujourd'hui? Où en est l'humanité aujourd'hui par rapport à cette question?
Alors, la violence faite aux animaux est aussi une pure construction sociale. Ce qui peut nous choquer aujourd'hui ne choquait pas forcément les sociétés en 1900 ou en 1800. Et l'exemple que vous donnez des Féroé est aussi un exemple, non pas là de distance chronologique, mais de distance culturelle. Et il y a un exemple très précis. En 1924, à Rouen, une femme est condamnée pour mauvais traitement aux animaux parce qu'elle avait tué son lapin, comme elle le tuait depuis toujours, comme ses parents, ses grands-parents avaient appris à le tuer. Et elle tombe sous le coup de la loi Gramont, et elle est complètement étonnée, tout d'un coup, de voir cette pratique complètement disqualifiée par, justement, le droit et par des nouvelles pratiques imposées par des élites sociales. Et il ne faut jamais oublier que cette violence-là, elle est aussi le résultat d'une construction sociale de la violence par des élites qui vont peu à peu disqualifier des pratiques qui ne sont pas forcément creuses, mais qui sont aussi le résultat de tout un rituel, de tout un imaginaire que l'on peut certes estimer aujourd'hui, rétrospectivement, parce que nous vivons dans une société où nous cherchons à mettre la violence à grande distance, où nous cherchons à la voir de moins en moins, dès lors qu'elle est visible, eh bien, nous nous attachons justement à la disqualifier. Mais, une fois encore, la violence faite aux animaux est aussi un sujet extrêmement sensible. Et vous avez pris tout à l'heure l'exemple pour essayer de distinguer des animaux qui pourraient ne pas être protégés ou au contraire qui ne seraient pas situés dans la même catégorie juridique, des nuisibles et des non-nuisibles. Mais je suis heureux dans ce cas d'apprendre que le loup et l'ours seraient dans ce cas-là moins protégés, puisqu'ils sont considérés, y compris par les éthologues, comme des animaux nuisibles. Or aujourd'hui, on le sait, la tendance n'est certainement pas à faire baisser le niveau de protection des loups et des ours. Donc je suis toujours un petit peu méfiant d'une violence ontologique qui existerait d'elle-même, et je pense qu'il faut être toujours extrêmement attentif à la réalité sociale derrière des gestes qui peuvent apparaître violents pour certains, mais qui ne sont pas forcément perçus comme violents par les acteurs.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous prolongeons notre discussion avec Florence Burga et Damien Baldin sur les animaux et leurs différences, ressemblances avec les humains. Florence Burga.
Oui, je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit par Damien Baldin et qui est souvent avancé. C'est qu'au fond, les urbains qui ne connaissent plus que les animaux de compagnie seraient coupés de la véritable réalité animale qui serait finalement l'animal d'élevage. On le fait naître, on l'élève, on l'abat, on le mange. Et que du coup, c'est parce que les urbains seraient coupés de cette réalité qu'ils ne comprendraient plus rien aux animaux et qu'ils auraient donc des demandes farfelues.
Qui projetteraient sur les animaux leur fantasme humain.
Pour les protéger, voilà, que ce seraient des choses. Moi, j'ai la thèse d'une certaine manière inverse. Est-ce que précisément ce ne sont pas les urbains qui, en vivant avec certains animaux qu'ils observent beaucoup et qu'ils ont dans leur maison pour vivre avec eux et non pas donc pour une finalité utilitaire, en tout cas dans le meilleur des cas, est-ce que précisément ça n'est pas cette forme de compagnie qui leur a permis de découvrir les animaux, de les connaître, de voir qu'il y avait une relation qui s'établissait, beaucoup plus que des éleveurs qui n'ont jamais cherché à établir des liens avec des animaux qu'ils engraissent et qu'ils tuent dès que possible. Donc je pense au contraire qu'il y a une connaissance plus grande des urbains.
Alors avant de donner la parole à Damien Baldin, je vais abonder dans votre sens, parce que moi j'ai 3 chats, et je les observe beaucoup, comme je suis écrivain, j'ai la chance de passer du temps chez moi, et je m'aperçois de l'extraordinaire d'avoir différence de personnalité d'un animal à l'autre. J'en ai un qui est contemplatif, l'autre qui est super actif, et puis on voit bien l'extrême sensibilité, en les observant, on peut percevoir à quel point effectivement on peut entretenir une relation personnelle avec un animal qui ressemble beaucoup aux relations évidemment interhumaines qu'on peut avoir. Donc j'abonde dans votre relation, mais je suis persuadé que Damien Baldin a un avis contraire.
Vous avez raison. Alors d'abord, il n'existe pas de véritable réalité animale. Moi je ne sais pas ce que c'est qu'une véritable réalité animale. Il y a des manières différentes d'avoir des relations avec des animaux. Il y a des systèmes domesticatoires qui sont différents. Je ne dis pas que le rapport domestique lié à l'élevage permet une meilleure connaissance que le système domesticatoire lié à l'animal de compagnie. Dans les deux cas, ce sont deux rapports avec des points communs, avec des différences, de la manière d'être avec des animaux. Et je ne crois pas qu'il y ait une supériorité en termes de vérité d'un rapport et d'un autre. Et puis, cette fois-ci, je vais me transformer en animaliste presque radical. L'animal de compagnie est aussi une exploitation des animaux.
Je suis d'accord avec vous.
Des animaux.
Je suis d'accord avec vous dans beaucoup de cas, oui. Mais pas dans tous les cas.
Non, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas non plus prendre le système domesticatoire, car c'en est un des animaux de compagnie, comme un système qui nous permettrait de comprendre une réalité animale. Ce n'est pas comprendre une réalité animale, d'ailleurs, c'est comprendre une certaine réalité des rapports sociaux. C'est ça, comprendre le système des animaux de compagnie. Et à partir de là, il me semble, en tout cas, du point de vue des sciences sociales, extrêmement dangereux de prétendre à circonscrire et à dire « voilà ce qu'est une réalité animale ». C'est parce que, justement, nos rapports avec les animaux sont toujours, y compris dans nos rapports avec les animaux dits sauvages, sont toujours le fruit d'une société, d'une idéologie, d'une pratique, d'une diversité sociale qui fait que, en tout cas, en social scientiste, il m'est impossible d'aborder une réalité animal. Alors, on va me dire peut-être l'éthologie.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des progrès scientifiques colossaux sur l'observation du comportement animal. On a longtemps dit que les animaux n'ont pas d'affect, c'est des machines. Regardez ce que nous disait Descartes sur la souffrance des animaux. C'est le grincement d'une horloge qui sonne, c'est la même chose qu'un animal qui crie quand il souffre. Mais l'éthologie a parfaitement montré l'extraordinaire sensibilité, souffrance, voire empathie, voire compassion que peuvent avoir les animaux. Ça nous les rend quand même différents que l'image qu'on en avait avant la connaissance de l'éthologie, de l'observation des animaux.
Mais nous n'avons pas attendu l'éthologie pour savoir que les animaux souffraient, qu'ils avaient des sentiments. Les paysans du 19e siècle ont une empathie incroyable pour leurs animaux. Eux aussi leur donnent des noms, estiment qu'ils souffrent, ont des rapports extrêmement affectueux avec eux. Et c'est à mon avis faux d'imaginer qu'il y aurait eu jusqu'à aujourd'hui une sorte de cartésianisme. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'un jour on puisse discuter réellement de ce que Descartes dit des animaux, que les animaux auraient été perçus comme des animaux machines. Non,
Pour lui, c'est...
Non, mais je parle pour, la, pour les sociétés occidentales.
Il veut tellement montrer que l'homme distingue l'animal par l'âme.
Je parle des sociétés occidentales. Elles n'ont pas été animées, et notamment les sociétés rurales, par une vision mécaniste
des animaux.
Et en même
temps,
ils ne sont pas cartésiens, oui.
Et en même temps, vous nous expliquez tout à l'heure quelque chose que je trouve un peu contradictoire à ce que vous venez de dire, à savoir que c'est par l'urbanisation et par des gens plutôt des élites urbaines. Donc, ça rejoint un peu la thèse de Florence Burga, qui était peut-être proche d'animaux de compagnie, etc., que toute la protection du droit animal est venue. C'est pas venu du monde rural lui-même.
Mais parce que le monde rural est très peu représenté dans les élites politiques,
législatives.
C'est tout à fait normal que... Alors, en plus, le système juridique, justement, protège encore très grandement au 19e et au 20e siècle, justement, toutes les pratiques diverses des animaux avec leurs animaux domestiques, justement, et protège également l'élevage. Donc non, en tout cas, ce n'est pas une contradiction de dire qu'il y a une certaine sensibilité qui existait dans nos sociétés rurales et de rapport aux animaux d'élevage on pouvait tout à fait tuer un animal et l'aimer. Et je crois que c'est aussi ce paradoxe-là que nous avons en partie, enfin, dont nous perdons un petit peu la compréhension. Et il suffit de se plonger dans l'ethnologie, mais y compris des campagnes françaises dans les années 60-70, pour montrer ce qui nous semble strictement impossible, comment on pourrait être capable d'aimer notre chat et en même temps de le tuer. Eh bien, ça ne doit pas disqualifier la perception que les sociétés occidentales avaient des animaux au 19e siècle, et notamment dans les campagnes.
France Burguin, encore un mot sur cette question.
Un tout petit mot, ce qui me gêne un peu dans votre discours, c'est que vous résorbez l'ensemble des choses en des représentations. Alors, on sait bien ce que c'est qu'une représentation. Mais dire que les choses n'ont pas de réalité et qu'elles ne sont que des représentations, je crois que quand on a attiré l'attention sur l'éthologie, c'est quand même qu'il y a une démarche épistémologique très construite pour essayer justement de s'effacer et de prendre le point de vue de l'animal. C'est pas juste une idée comme ça, il y a quand même des méthodologies qui sont mises en place dans cet esprit.
Je voudrais juste, pour conclure, ne pas oublier que, évidemment, comme par hasard, les très grands spirituels du passé, vous avez parlé de la violence dans les religions, mais néanmoins, n'oublions pas que Saint François d'Assise savait déjà que les animaux, y compris les oiseaux, avaient une immense sensibilité et que, de surcroît, ils savaient leur parler. Donc c'était peut-être un éthologue avant l'heure. Mais comme nous avons souvent parlé ici des très grands penseurs spirituels du passé, je voudrais quand même insister sur le fait qu'il est très rare de voir un très grand sage spirituel ne pas avoir ce respect absolu des droits de la vie où qu'il se manifeste.
Eh bien, Lily, sur cette sage parole, que nous allons clore cette émission. Merci beaucoup à nos deux invités. Je rappelle vos ouvrages, Damien Baldin. Donc, une histoire tout à fait passionnante, hein, des animaux domestiques au 19e et 20e siècle. Livre très facile à lire et passionnant aux éditions du Seuil. Et puis, Florence Burga, Une autre existence, la condition animale. Pour ceux qui veulent réfléchir de manière plus pointue sur la question de l'homme et de l'animal, aux éditions Albin Michel, donc Une autre existence, et puis votre livre qui vient de sortir, Ahimsa, violence et non-violence envers les animaux en Inde, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Jacques Julliard qui nous parlera de la philosophe Simone Veil. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.